Alors, bonjour à toutes et à tous, bonjour à chacun, bienvenue, soyez les bienvenus toutes et tous, toi qui viens depuis 30, 40 ans dans cette église, toi qui es peut-être nouvelle et qui viens depuis la première fois ou quelques fois à l'église, soyez toutes et tous les bienvenus, quelles que soient vos origines, votre passé, vos opinions, votre couleur de peau. Si on se réunit ce matin, nous, une assemblée de toutes les générations, c'est pour célébrer un culte pour Dieu. Donc, avec nos joies et nos peines, on est ici pour se rappeler que tout ce qu'on vit ici et maintenant, ce n'est absolument rien comparé à la gloire à venir, comparé à ce que Dieu nous réserve. On veut aussi se rappeler que malgré la grandeur de Dieu, il nous aime, chacun d'entre nous. Et ça, c'est quand même magnifique, vous serez d'accord avec moi. Donc, on va chanter ensemble. Et j'invite celles et ceux qui le peuvent ou le veulent à se lever. On va chanter comme d'un seul cœur pour se rappeler qu'envers et contre tout, Dieu nous a tant aimés qu'il est venu lui-même en la personne de son Fils pour donner sa vie pour nous, pour racheter nos fautes, pour racheter nos péchés. C'est incompréhensible parce qu'on ne mérite pas ça. Il s'est donné comme un agneau qu'on sacrifierait. Il nous a fait grâce, ça veut dire qu'il nous a pardonné. Il a pardonné notre méchanceté en donnant sa vie humaine pour nous. Alors comment répondre à un amour si grand? Ce qu'on veut faire, c'est chanter ses louanges, et je vous invite à vous lever, et vivre pour lui, en essayant d'aimer comme il a aimé, comme il nous a aimé le premier.
Du mal de la mort, qui est un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Incomparable, quel amour infini, que tu sois près ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en fils. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peurs dans la vérité, et comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix. Sur la mort, digne l'agneau immolé. se comparer. Quel amour infini que tu es pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Pour ce que tu as fait, Jésus, je te chante pour ce que tu as comme toi, Dieu puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer son sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine comme mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai.
Place les uns et les autres. Les enfants, vous comptez pour nous. Dans cette église, vous comptez beaucoup et vous comptez beaucoup pour le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour vous. Et nous, notre désir, c'est que vous le rencontriez, c'est que vous marchiez avec lui et c'est que vous puissiez chanter de tout votre cœur « Jésus, je te suivrai ». Alors maintenant, vous allez avoir un temps pour vous et mon petit doigt me dit que de belles et grandes choses se préparent pour Noël, avec une belle surprise pour vous et pour nous plus tard, mais j'aimerais prier. Cher Seigneur, on vient de chanter que tu as donné ta vie pour nous. C'est quelque chose à la fois d'inimaginable, et puis en plus, ça vient nous bousculer. Il y a quelqu'un qui nous aime, qui prend soin de nous, qui veut notre meilleur. Et j'aimerais te prier pour les enfants que tu nous prêtes ici, te remercier pour eux, pour elles, et te demander de leur donner beaucoup de joie maintenant dans leur groupe respectif. Merci d'encourager aussi les monos des potes, et puis de préparer la saison qui est en train de se tramer là. On la remet entre tes mains. Et puis pour nous, Seigneur, accorde-nous un temps où nous pourrons t'écouter et peut-être recalibrer nos vies sur la tienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Let's go les enfants. C'est à vous. Le dimanche 17 décembre, nous aurons ici même notre célébration de Noël avec une forte participation des enfants, avec entre autres une chorale. N'oubliez pas de réserver cette date, ce sera un temps fort pour la vie de notre Église. Nous arrivons bientôt à la fin de cette série démarrée en septembre, motivée par l'essentiel. Il reste ce dimanche et puis dimanche prochain à ne pas manquer non plus parce que c'est la fin de la boucle et en plus c'est cet été qui va présider le culte de dimanche prochain. Mais pour ce matin, on poursuit notre réflexion avec ce thème, titre qui a été donné, « Créer pour devenir comme Christ ». Pourquoi est-ce que je suis sur terre? On s'était posé cette question il y a quelques semaines, vous vous en rappelez peut-être. Pourquoi est-ce que je suis sur terre? Eh bien parce que Dieu, sans conteste, a voulu que je sois là. Dieu a voulu que tu sois là. Je compte infiniment pour lui. Il est mon créateur. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Il dit même qu'il est notre ami, que nous sommes ses amis. Une relation d'amitié avec Dieu, c'est pas rien. Il m'appelle à l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Il m'appelle à l'aimer sans retenue, sans rien garder, comme l'exprimait un vieux chant de l'époque. Et il m'invite à lui présenter un culte qui englobe toute ma vie. Pas seulement l'heure de culte du dimanche matin, mais un culte qui englobe toute ma vie. Et puis, il m'appelle aussi à faire partie de sa famille, qui est l'Église, et à développer en Église une véritable communion avec celles et ceux qui sont mes frères et mes sœurs. Paul écrit aux Romains, « Nous formons ensemble un seul corps, par notre union avec le Christ, et nous sommes tous et chacun, chacune pour notre part, membres les uns des autres. » L'Église, c'est plus qu'une association. C'est plus qu'un colloque, une assemblée générale. C'est plus qu'une réunion le dimanche matin. Nous sommes membres les uns des autres. On est fait pour marcher ensemble. Pour ce matin, Thierry, je ne sais pas si tu arrives à m'envoyer le PowerPoint. Pour ce matin, nous allons penser à un autre but que Dieu poursuit avec nous. Cet autre but que Dieu poursuit avec nous, c'est que Dieu veut nous rendre conformes à l'image de Jésus-Christ. Créés pour devenir comme Christ. Romains 8, 29 dit que ceux et celles que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Nous avons été créés pour devenir comme Christ. Son plan, dès le début, le plan de Dieu, dès le début, a été de créer des êtres humains à son image. Pas pour être des dieux, pas pour être des déesses. mais pour lui ressembler à lui, sur le plan moral, sur le plan relationnel, pour porter la responsabilité de la création, pour répondre à son amour et vivre dans la sainteté. Alors je sais d'expérience que le péché complique les choses, mais le plan de Dieu reste le même. Nous avons été créés pour devenir comme lui, comme Christ. Et pour nous qui avons du mal à imaginer à quoi ressemble un être humain qui est vraiment en phase avec Dieu, eh bien Dieu a choisi de nous donner un modèle type, un point focal. C'est le Christ. Le modèle type pour ressembler à Dieu, c'est le Christ. Dieu nous appelle à ressembler à Jésus. Celles et ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, créés pour devenir comme Christ. Comment ? Comment ? Par un claquement de doigts ? Par un tour de passe-passe ? Par le genre de transformation que subit Clark Kent quand il devient Superman ? Certainement pas. Mais par un processus continuel, par une croissance, comme celle des plantes, comme celle des bébés, une croissance. C'est une nouvelle naissance qui fait de nous des enfants de Dieu. Et après, après la nouvelle naissance qui nous fait devenir enfants de Dieu, après ça, nous devons, vous et moi, grandir en passant par toutes les étapes de la croissance, celle de la très grande dépendance d'un nouveau-né, celle de la petite enfance heureuse, un peu insouciante, celle de l'adolescence et de ses crises continuelles, soutenues parfois, et puis celle de l'âge mûr. Et le portrait d'un chrétien, d'une chrétienne mûre, c'est le portrait de Jésus-Christ. Un chrétien, une chrétienne mûre, ressemble à Jésus. Pour grandir un enfant, il a besoin d'amour, de stabilité, de sécurité. Dieu nous offre ça. Il nous offre une identité stable, sécure. En lui, nous avons de la valeur. En lui, nous sommes aimés. En lui, nous sommes en sécurité. Pour grandir, un enfant a besoin d'une bonne nourriture. Une nourriture adaptée, une nourriture équilibrée. Et Dieu, lui, va nous nourrir à travers sa parole, à travers la Bible. Comment est-ce que nous pourrions prétendre connaître Dieu en gardant nos Bibles fermées ? Dieu nous nourrit au travers de sa parole, notre pain quotidien. Et ça, c'est incontournable. Alors nous voulons la lire, nous voulons l'étudier, peut-être même que nous voulons la mémoriser, nous voulons la méditer, l'appliquer dans nos vies. La vérité nous rendra libres. Et elle nous fera grandir. Et puis pour grandir, un enfant a aussi besoin d'une famille. Et là, je crois que Dieu utilise les autres chrétiens, les autres chrétiennes, pour nous encourager, pour nous enseigner, pour nous fournir des modèles, parfois pour nous reprendre. Mais nous avons besoin d'une famille. Si un enfant est laissé à lui-même, eh ben il s'étiole. Laissé à lui-même, un chrétien, une chrétienne, ne mûrit pas. Il s'étiole. C'est pour cela que Dieu a voulu l'Église. C'est pour cela que Dieu a voulu la communion fraternelle, avec toutes les complications de la communion fraternelle. comme il a voulu une famille pour un enfant, avec toutes les complications d'une famille. Dieu a voulu la communion fraternelle. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en grandissant, un enfant va découvrir les difficultés de la vie. Il va se heurter, l'enfant, à la volonté de ses parents. Il faut justement qu'il s'y frotte et qu'il découvre que le monde ne tourne pas autour de ses désirs et de ses caprices. L'enfant va faire des sports qui le poussent plus loin physiquement. Il va affronter des déceptions, des épreuves, des échecs. Et c'est au milieu de tout ça que son caractère va se forger, que l'enfant va devenir une femme, un homme qui sait ce qu'il se veut. Pour nous faire grandir, Dieu fait donc plus que de nous donner la Bible, que de nous donner l'Église, que de nous assurer de son amour. Dieu fait plus que ça. Il nous met devant des situations difficiles. Juste avant de dire « Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils », juste avant de dire ça, l'apôtre Paul dit ceci. C'est le verset juste avant. « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Tout concourt, disons-nous, au bien de celles et ceux qui aiment Dieu. Ou plutôt, Dieu fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Les choses agréables comme les choses désagréables. Et en fait, Paul pensait ici plutôt à des trucs désagréables. Il dit la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée. Dieu est plus grand que tout ce que les hommes et les femmes peuvent inventer. Et il peut même utiliser leur méchanceté pour le bien de ceux et celles qu'il aime. C'est assez stupéfiant, je trouve. Parce que dans la vie, tout n'est pas bien, tout n'est pas rose. Mais tout peut me servir pour que je devienne quelqu'un de plus mature à l'image de Jésus-Christ. Alors ce matin, je vous propose encore de réfléchir à trois expériences courantes que Dieu emploie pour notre bien et qui ont profondément marqué la vie du Christ. Il a connu l'épreuve dans le jardin de Gethsémané. Il a été tenté dans le désert et il a subi l'injustice de la croix. Et si nous voulons grandir pour être comme Jésus-Christ, Dieu va sans doute nous faire traverser le même genre d'expérience. Le serviteur, la servante, n'est pas plus grand que son maître. Ces expériences ne nous aideront pas à grandir de façon automatique, innée. Elles peuvent même nous rendre amers si notre cœur n'est pas prêt. C'est pourquoi je trouve qu'il vaut la peine de nous y pencher pour préparer le terrain. Romains 5, 3 à 4. La détresse produit la persévérance. La persévérance produit le courage dans l'épreuve. Et le courage produit l'espérance. Donc, Dieu vient utiliser nos épreuves, nos afflictions, pour nous apprendre à lui faire confiance. Ces épreuves-là sont des situations que Dieu crée ou qu'il permet pour nous rapprocher de lui. Leur intention n'est pas de nous faire tomber, elles sont là pour nous aider. Si tout allait bien pour nous, si tout roulait tout le temps, nous n'aurions pas besoin de grandir dans la foi ou d'acquérir la maturité. Alors Dieu introduit dans nos vies des expériences difficiles qui vont nous faire grandir. Un jour, nous nous retrouverons dans un endroit sans problème, sans épreuve. Mais si nous espérons aujourd'hui trouver le paradis sur terre, nous serons déçus. Nous sommes là dans un lieu de formation destiné à nous rendre semblables à Jésus-Christ. Et Jésus a essuyé beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et la plus grande d'entre elles a été cette nuit particulière, juste avant la crucifixion. Il se rend avec ses disciples dans une grande oliveraie appelée Gethsémané. Là, il demande à ses disciples de rester avec lui pendant qu'il prie. Il sait ce qu'il attend. Il va mourir d'une mort horrible. Il va prendre sur lui le péché du monde. Son angoisse à ce moment-là est palpable. Va-t-il faire confiance à Dieu ? Va-t-il faire confiance à Dieu, même si cela veut dire qu'il va mourir ? Et ça, c'est l'épreuve ultime de notre vie. Tout le reste, en attendant, c'est pour nous préparer. Mais ferons-nous confiance à Dieu, même si ça veut dire qu'on va mourir. Va-t-il faire confiance à Dieu? C'est avec ça que Jésus doit lutter. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Même Jésus a besoin d'amis lorsqu'il traverse cette épreuve. Et personne n'est censé traverser les épreuves de la vie tout seul, toute seule. Personne. Pour les épreuves de la vie, avant tout, et Jésus a montré le chemin, nous avons besoin d'amis. Nous avons besoin de communion. Nous avons besoin de solidarité fraternelle. Jésus commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Rendez compte, Jésus qui est Dieu, dit à Dieu, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il le dit à ses amis, aux 12, aux meilleurs d'entre eux. Il va jusqu'à dire, je suis triste jusqu'à la mort. Est-ce qu'on ose ce type de vérité entre nous quand on parle de nos épreuves? Ou est-ce qu'on met tout sous le tapis, tout sous le vernis d'un joli chant de louange? Donc voilà Jésus dans une grande détresse. Il traverse une épreuve monumentale. Et regardez comment il réagit. « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, lorsque vous et moi, nous sommes dans l'épreuve, et nous les traverserons à coup sûr. Mais lorsque nous y sommes, il est normal de dire à Dieu, à la suite de Jésus, « Je n'aime pas ça. Ça me dépasse, ça me déborde. Je ne sais pas comment je vais m'en tirer. J'aimerais que tu éloignes cette épreuve de moi. Je sais que tu peux l'éloigner. Fais-le. » Il est normal de le dire à Dieu. Et Jésus dit, en fin de compte, « Abba Père, cher Papa, cher Seigneur, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Et pourtant, voilà ce que je choisis, que ta volonté soit faite dans ma vie. » Jésus s'est soumis au plan de Dieu. Et si vous et moi, quand on traverse une épreuve qui nous renverse, nous disons, Seigneur, j'aimerais tellement que tu éloignes ça de moi, mais en même temps, je te fais confiance. Alors nous nous inscrivons de façon très simple et concrète à la suite de Jésus. Il existe une deuxième expérience que Dieu utilise pour nous rendre semblables à Jésus. Il utilise nos tentations. Les tentations sont des situations conçues non par Dieu, mais par le malin, dans le but de nous faire dévier, de nous faire tomber, qu'on se ramasse, qu'on se pète les dents, le cœur, l'âme. Dieu ne nous incite jamais à faire le mal. La Bible est très claire sur ce point. Dieu ne nous tente jamais. Mais Dieu est capable d'utiliser nos tentations pour produire du bien dans nos vies. La tentation, c'est quelque chose qui vient nous offrir un choix. Et lorsque je choisis Dieu plutôt que le mal, alors je déjoue le plan de l'adversaire et je grandis spirituellement. Il faut procéder à des choix pour développer une force de caractère. Jésus, donc, n'a jamais péché. Mais il a été tenté, juste après avoir été baptisé. Au tout début de son ministère public, il a subi une intense période de tentation pendant 40 jours dans le désert par le diable, dit le texte. Matthieu 4, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Si Jésus a été tenté, nous allons aussi être tentés. Être tenté n'est pas un péché. C'est Martin Luther qui a dit « Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais nous pouvons les empêcher de bâtir un nid dans nos cheveux. » On n'évacuera jamais la tentation. Nous n'arriverons jamais à un point de notre vie où nous serons si spirituels ou si âgés que nous ne serons plus tentés. Nous serons tous et toutes tentés pendant toute notre vie. Et nous avons chacun, chacune nos tentations différentes. Oh, il y aura des points de connexion. On peut en parler, les gars. On peut en parler. Mais nous avons tous et toutes nos tentations. Il est important ici de se souvenir que chaque tentation est une occasion de faire le bien, de faire le bon choix. C'est un tremplin vers une conformité à Jésus-Christ. Et remarquez ce que Jésus fait lorsqu'il est tenté. Matthieu 4, verset 10. Jésus dit, retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Autrement dit, Jésus, quand il est tenté, il fait face à la tentation en s'appuyant sur la Bible et en mettant Dieu au centre. La tentation, elle vient nous tester pour savoir ce que nous aimons plus dans la vie. Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que ce que nous aimons le plus dans la vie, c'est Dieu ? Ça, c'est le centre de la tentation. Le cœur du truc, c'est ça. Est-ce que nous aimons le plus dans la vie ? Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que j'aime Dieu plus que l'argent ? Est-ce que j'aime Dieu plus que mes relations amoureuses ? Et si je suis, par exemple, tenté par une relation toxique, est-ce que j'aime Dieu plus que la relation toxique ? Qu'est-ce que j'aime le plus dans la vie ? Obéir, choisir de dire oui à Dieu, ce n'est pas un devoir. C'est une question d'amour. Jésus a dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Ce n'est pas une question de devoir, c'est une question d'amour. Alors à quelle tentation sommes-nous confrontés aujourd'hui ? Comment Dieu pourrait-il utiliser cette tentation pour renforcer notre caractère et nous rendre ne serait-ce qu'un petit peu plus mûrs ? Dieu veut nous rendre semblables à Jésus-Christ. Il veut renforcer notre caractère maintenant, afin que nous puissions recevoir plus tard une récompense éternelle. Cette vie-ci, maintenant, c'est une préparation pour l'éternité. Dieu utilise les épreuves pour nous apprendre à lui faire confiance. Dieu utilise la tentation pour nous apprendre à lui obéir. Et en fin de compte, Dieu utilise aussi les injustices. Vous connaissez le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La partie compliquée de ce verset, c'est le mot « comme ». Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a dans la vie des gens qui nous blessent. Il y a dans la vie des gens qui nous agressent, qui nous font subir des injustices délibérément. Et il est difficile de leur pardonner. C'est une chose de faire face aux épreuves. C'est une chose de faire face à la tentation. C'en est une autre de supporter une blessure infligée par les autres sans chercher à se venger. Être incompris, critiqué, jugé, agressé émotionnellement ou verbalement, être même victime de violences physiques, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Il n'y a aucun bien dans le mal qui ravage. Ce n'est pas Dieu qui le veut, car Dieu n'est pas l'auteur du mal, il a le mal en horreur. Mais Dieu, pourtant, n'a même pas protégé son propre Fils contre ces injustices-là. Jésus a été incompris, Jésus a été blessé, il a été jugé et maltraité. Qu'est-ce qui nous fait croire que nous n'allons pas vivre les mêmes choses ? À la croix, Jésus n'a pas seulement porté nos péchés. Jésus est mort, encerclé par la haine. Matthieu 27 dit ceci : les passants l'injuriaient, secouaient la tête. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes, les anciens, se moquaient aussi de lui. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière, encerclés par la haine de toutes parts. Et comment réagit-il ? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle a été la réaction de Jésus aux offenses, à l'injustice ? Eh bien, il a renoncé à la vengeance. Il a encaissé l'injustice. Il a répondu au mal par le bien. Il s'en est remis à Dieu. Alors il y a dans la vie bien des occasions où il faut se battre pour ce qui est juste, où il faut résister à des gens malhonnêtes, à des gens injustes, à des gens violents. Jésus l'a fait. Nous le faisons pour nous-mêmes. Et surtout pour les autres, parce qu'il faut faire reculer les tyrans. Mais il y a d'autres occasions où il n'y a rien à faire, où le faible est victime de plus fort que lui. Et là, Jésus nous laisse un exemple extraordinaire. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si nous désirons grandir spirituellement, si nous désirons devenir comme Jésus-Christ, nous devons apprendre à faire comme lui. Et dans la vie, nous allons tous et toutes être blessés, d'une manière ou d'une autre. Et si nous désirons devenir semblables à Christ, nous devons apprendre à pardonner. Comment pouvons-nous apprendre à pardonner si nous n'avons jamais été blessés ? Et pourtant, le pardon, c'est une des premières qualités de Dieu. Il nous pardonne. Dieu veut que nous apprenions à devenir comme lui. Il permet des blessures dans notre vie afin de nous rendre plus semblables à Jésus. Je conclus. Dieu veut nous rendre semblables à Jésus. Il va nous faire vivre peu ou prou tout ce que Jésus a vécu. Ce qui veut dire qu'il va nous faire vivre des Gethsémané, des épreuves dans lesquelles nous apprenons à faire confiance à son amour. La dernière d'entre elles, c'est notre mort. Nous n'y échapperons pas, à moins que le Seigneur revienne avant. Mais sinon, nous n'y échapperons pas. Et nous avons plein de petites morts dans la vie pour nous apprendre à nous préparer à la grande. Nous apprenons à faire confiance à son amour. Il va nous faire subir des temps de désert, des temps de tentation, des temps d'âpreté. Et nous allons apprendre à lui obéir, à faire ce qui est juste. Et il va nous mener à la croix, à des temps d'injustice, où nous allons apprendre à nous en remettre à Dieu et à pardonner. Si vous pensez que cette idée-là est trop dure, alors écoutez ce dernier verset de Romains 8. Nous sommes ses enfants, donc nous sommes aussi ses héritiers. Oui, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Car si nous souffrons avec lui, nous serons avec lui dans sa gloire. Je ne sais pas ce que nous vivons tous et toutes ce matin. J'aimerais bien savoir. Mais je suis sûr que Dieu veut que nous réagissions en ressemblant à Jésus. C'est simple à dire, je le sais. Mais il faut toute une vie pour le vivre. J'apprends à le vivre. Et je serai toujours tellement heureux de partager avec vous, cœur à cœur, comment j'apprends à le vivre, pour découvrir comment vous apprenez à le vivre. Et vous qui êtes mes aînés dans la foi, j'ai besoin d'entendre comment vous vivez votre saison. Et vous les jeunes, j'ai besoin d'entendre quelles sont les difficultés de votre temps présent. J'ai l'impression de les deviner, puis des fois je me plante tellement. Il faut une vie pour vivre l'expérience de la ressemblance à Jésus. Comme les dernières fois, je vais vous proposer une prière, suivie par un temps de prière communautaire. Une prière courte que je vous invite à lire d'abord, et puis, si vous le souhaitez, vous pourrez la dire avec moi dans quelques instants, et nous poursuivrons par un temps de prière que Matthieu tout à l'heure conclura. Notre Dieu, notre Père, je veux devenir celui que tu as voulu que je sois. Merci de m'avoir donné Jésus comme modèle. Je veux ressembler plus à Jésus dans ma façon de penser, dans ma façon de ressentir, dans ma façon d'agir. Et si cela signifie de vivre des périodes d'épreuves, je te dis alors, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et si cela signifie que je subirai des tentations, donne-moi la force de faire les bons choix. Et si cela signifie de subir des injustices, enseigne-moi alors à pardonner comme toi tu m'as pardonné. Au nom de Jésus. Amen. Un temps de prière communautaire.
Alors on va terminer ce moment avec un chant d'appel. Et avant de prendre ce qu'on appelle communément la Sainte Cène, j'aimerais vous inviter à penser à ce que Philippe a dit et à votre relation actuelle avec Dieu. Et si vous avez envie d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, si vous avez envie de lui donner votre vie, comme on l'a chanté plus tôt, si vous avez envie de renouveler cette alliance que vous avez faite il y a longtemps, je vous invite à vous lever et à chanter ce prochain chant avec nous. Et je précise qu'à la fin du culte, il y aura aussi des équipiers de prière qui seront disponibles ici, à côté de la scène, si vous sentez le besoin de parler à Dieu avec quelqu'un.
Et pour mon bonheur suprême.
On se réunit ce matin, c'est pour se rappeler que tout homme, toute femme est né coupable. Chacun d'entre nous est intrinsèquement poussé à agir pour soi-même de façon égoïste plutôt que vers l'autre, par amour. Nous sommes tous et toutes coupables. Mais malgré ça, Dieu est venu sur terre en la personne de Jésus. Malgré ça, il a mangé comme nous, il a marché comme nous, il a pleurer comme nous. Mais lui, il est resté pur. Et malgré son innocence, il a été mis à mort par ceux qu'il venait sauver. Juste avant d'être livré aux autorités pour être mis à mort, Jésus a pris un repas avec ses disciples. Et pendant ce repas, il a pris du pain et il l'a partagé en le comparant à son corps qui a été brisé sur la croix pour nous tous. Ensuite, il a pris du vin, il l'a donné à ses disciples en le comparant à son sang qui a été versé pour nous tous sur la croix. Et chaque dimanche, depuis 2000 ans, les chrétiens du monde mangent le pain et boivent le vin. Et ici, on a aussi du jus de raisin au centre des plateaux pour les personnes qui ne boivent pas de vin. Les chrétiens mangent du pain et boivent du vin pour dire « Oui, Jésus, j'accepte ton sacrifice à la croix. Je crois que tu m'as sauvé. » Et je veux être l'un ou l'une de tes disciples. Je veux te suivre. Et alors que, merci aux volontaires vont faire la distribution, alors que les volontaires vont faire passer les paniers et les plateaux, je vous invite à prendre ce qu'on appelle la Sainte Cène si vous aussi, vous voulez dire « Oui Jésus, j'accepte ton sacrifice à la croix. Je crois que tu m'as sauvé et je veux te suivre. » Et pendant qu'on prend la Sainte Cène, nous allons remercier Jésus pour ce sacrifice. Nous allons remercier notre Rédempteur, ça veut dire notre Sauveur. Et j'invite celles et ceux qui le veulent à se lever.
D'avoir donné Jésus ton
par sa grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit.
Toute notre reconnaissance va vers toi, Seigneur. Merci pour notre grand prêtre souverain sacrificateur qui a traversé les cieux et ouvert le chemin du salut. Merci parce qu'en lui, nous trouvons la grâce et le secours dont nous avons besoin lorsque nous sommes mis en difficulté. Merci pour ton sacrifice qui tient, qui nous tient, qui nous ouvre la porte de la communion éternelle avec Dieu. Seigneur, que ce geste que nous venons de faire soit un geste qui nous rappelle ta bonté, ta grâce, et puis la trajectoire jusqu'à toi un jour dans la gloire. Dans le nom de Jésus, amen.
On arrive gentiment à la fin de ce culte et si vous êtes intéressé par la vie de notre église, il y aura quelques informations qui vont tourner à l'écran à la fin du culte. Mais on tenait quand même à vous annoncer deux nouvelles. La première, c'est qu'on aura la joie le 8 décembre au soir de recevoir le groupe de musique chrétienne Antidote. C'est eux qui ont composé entre autres le chant Une seule église qu'on chante souvent ici. N'hésitez pas à inviter vos amis et votre famille pour ce concert de musique de Noël. C'est l'occasion de passer un bon moment ensemble et puis de partager la bonne nouvelle de l'évangile. La deuxième, c'est que le groupe de jeunes, la personne ici de Elliot et Maïka, si vous pouvez vous lever puisqu'on voit qui vous êtes, cherche activement pour leur camp d'hiver qui sera du 27 décembre au 3 janvier des cuisiniers pour faire à manger pour les jeunes pendant ce camp de ski. Et si vous êtes intéressé ou connaissez des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées, n'hésitez pas à aller leur en toucher un mot à la fin de ce culte. J'aimerais vous demander une dernière fois de vous lever pour la conclusion de ce moment. Afin de vous dire que, voilà, d'aller dans la paix, la grâce que le Seigneur nous offre gratuitement, de passer une bonne semaine en nous rappelant chacun, chacune, de ce que Philippe nous a dit ce matin. Voilà, simplement. Bonne semaine et bon dimanche à tout le monde.
Merci Mathieu.
Merci les amis.